In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Aujourd'hui, encore une rencontre avec l'autrice et l'auteur en résidence à la maison Julien Gracq. Je tiens beaucoup à ce partenariat noué avec cette structure. L'actualité récente en région Pays de la Loire montre combien la culture, dans sa globalité, est toujours un danger, mais aussi est toujours en danger. Pour faire taire toutes ces contestataires de toute évidence de dangereux gauchistes, il suffit simplement de lui couper les moyens. Bon, dans un tout autre domaine, il est important de rappeler que la liberté d'écrire, si elle semble une évidence en France, dans d'autres endroits du monde, elle est en terrible danger. Boualem Sansal, en Algérie, en paye le prix, puisque lui est en prison depuis près de 3 mois. Et hélas, il n'est pas le seul à subir cette forme de bâillon. Être en partenariat, agir collectivement, exprimer sa solidarité, c'est une manière de lutter contre l'isolement qui fragilise, c'est empêcher l'oubli. Mais ce lien cultivé avec la maison Julien Gracq, c'est aussi l'opportunité de donner la voix en Anjou à des autrices et des auteurs venus d'ailleurs. Aujourd'hui, elle et ils sont deux autour des micros de Radio G, Claire Baglin, autrice de En Salle, aux éditions de Minuit, et Clément Camard-Mercier, auteur de Le roman de Jeanne et Nathan, aux éditions Actes Sud. Avec elle et lui, nous allons parler de fiction, parce que l'une et l'autre choisissent des voies bien différentes pour que la fiction parle de nous et de l'époque dans laquelle nous vivons. Bonjour Claire Baglin. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour et merci de m'avoir invitée. Se présenter en quelques mots, je suis écrivaine d'un roman qui a été publié en septembre 2022, donc il s'intitule En Salle, qui a été publié aux éditions de Minuit. Et parallèlement, j'ai effectué quelques emplois divers comme vendeuse de canapés, balayeuse et libraire.
Ben, c'est déjà une belle carte de visite finalement. vous êtes actuellement en résidence à la maison Julien Gracq et En Salle, donc ce premier roman qui a été publié en 2022. En Salle, c'est un roman très étrange qui raconte deux histoires que moi je dirais entrelacées. L'histoire d'une petite fille qu'on va voir grandir et le moment d'une vie d'une femme qui travaille dans un fast-food. Est-ce que quant à la forme, c'est bien ça ?
Oui, exactement. Ce sont vraiment deux fils qui se croisent parfois, mais qui progressent peu à peu tout le long du récit, entre cette famille donc, dont cette petite fille dont vous avez parlé, enfin, qui se groupe autour d'un père ouvrier, et cette équipière dans un fast-food qui est suivie par le lecteur de son entretien d'embauche à divers postes qu'elle effectue au sein du restaurant.
Alors, moi j'aimerais qu'on éclaircisse un point. Est-ce que cette petite fille et cette jeune femme sont une seule et même personne ?
C'est quelque chose que j'ai envisagé pendant l'écriture, mais je laisse un peu, on va dire, le doute. En tout cas, on peut faire ces croisements-là, effectivement. On peut faire ce lien entre cette petite fille et cette jeune femme.
Alors moi, j'y ai pensé, pas tout de suite, mais à la lecture. Et puis je me suis dit, peut-être que ce n'est pas possible, parce qu'à un moment donné, on voit, je ne sais plus quel véhicule à la famille, c'est un berlingot.
C'est ça,
c'est un berlingot, hein, avec la porte latérale qui coulisse.
Oui, qui coulisse.
Voilà. Quand cette jeune femme donc, est au service, au drive, il y a une voiture qui arrive avec un enfant qui a la tête collée contre la fenêtre et qui semble être avachi. Et je me suis dit, ben non, c'est finalement pas les mêmes personnes, puisqu'à un moment donné, ces deux se croisent finalement, peut-être par hasard.
Ça me touche beaucoup que vous ayez remarqué ce passage, parce que c'est justement le passage où ces deux personnages se croisent et où la petite fille endormie est celle du passé, en quelque sorte, et celle au présent. Enfin, les deux se croisent vraiment à cet instant.
Bon, Eh bien, voilà, je suis rassuré.
Bonne lecture. Enfin,
merci.
Merci de faire ce lien.
Ce qui est étrange, c'est quand même ce titre, En salle. Parce qu'En salle, à mes yeux, après cette lecture, il semble exclure la partie concernant justement cette petite fille. Parce qu'il met l'axe sur cette jeune femme, son parcours, son entrée dans ce fast-food. Et puis, finalement, alors que la famille apparaît immédiatement à la quatrième ligne, je crois, si mon souvenir est bon, on a deux, trois lignes d'ouverture du roman, c'est sur le formulaire à remplir, et puis on attaque sur la famille. Pourquoi ? Enfin, est-ce que c'est un déséquilibre voulu ? Est-ce que c'est une difficulté à donner un titre à un livre ? C'est quoi ?
Plusieurs choses. En fait, En salle, c'est aussi en scène d'une certaine façon. C'est la salle dans le jargon de travail, c'est vraiment ce lieu enfin public d'une certaine façon. À l'inverse justement de la petite fille qui est elle dans une sphère privée familiale dont elle ne sort que très peu. Mais ce qui m'intéressait avec ce terme, c'était peut-être le lieu de la salle au fast-food dans laquelle se retrouve cette petite fille au début, puisque c'est à la fois un lieu où l'équipière au fast-food travaille et assignée le plus souvent, mais c'est aussi le lieu de l'ennui. Et l'ennui, pour moi, c'est l'enfance. Oui. C'est l'enfance de cette petite fille-là. C'est-à-dire, c'est le moment où on est submergé par le travail dans des instants comme ça, dans ce qu'on appelle le rush, enfin au travail dans le restaurant. Mais la salle, c'est aussi le moment où à 14h et 15h, personne ne veut plus commander de nourriture et où il y a l'ennui. Et l'ennui, c'est vraiment le lieu de l'enfance.
Pourtant, quand cette famille arrive dans ce fast-food, restaurant, fast-food, mais fast-food de toute façon, c'est un fast-food. Il y a les odeurs de frites, donc c'est un fast-food. Quand cette famille, il n'y a pas d'ennui, c'est une excitation folle quand même pour ces gamins.
Oui, il y a de nombreuses activités, de nombreuses sorties. C'est là-dessus que j'avais envie d'écrire, c'est-à-dire les moments où le travail est omniprésent, je parle du travail du père, mais en même temps, on est dans des temps joyeux, familiaux, agréables, mais il y a quand même des temps d'ennui, puisque la plupart du temps, les enfants dans ce roman sont dans des voitures. Ils sont dans une voiture et attendent. Qu'est-ce qu'on fait dans une voiture ? On attend. Et on attend, parfois on ne sait même pas combien de temps on doit attendre, c'est-à-dire quand est-ce qu'on arrive ? C'est cette question-là qui m'intéressait peut-être.
Parce que quand je parle d'excitation, c'est que il y a cette voiture qui arrive sur le parking, on s'arrête, on va aller dans ce fast-food. Pour les gamins, ça représente quelque chose. Il y a le jouet qu'on va obtenir avec le repas, il y a le côté presque quasi extraordinaire de cette sortie, de ce moment familial où la famille n'a peut-être pas trop les moyens d'aller au restaurant parce que ça coûte trop cher. On l'entend dans les dialogues des parents. Mais pour les enfants, c'est quasi mythique, quoi. Enfin, ce type de restaurant-là est quasi mythique.
La sortie est inédite, enfin, apparaît inédite pour les enfants. Donc, on a l'impression que ça pourrait être n'importe quel lieu pourvu que ce soit rare, en fait. Il est assez peu question de nourriture, par exemple, dans ce premier passage. Les enfants savourent brièvement ce qu'ils mangent, mais en vérité, ce qu'ils aiment, c'est le lieu, le lieu de l'inédit et le moment où les parents acceptent qu'on y aille.
À cet endroit du livre, on est au début, mais à cet endroit du livre, il y a du vécu.
C'est peut-être l'endroit du livre où il y a le moins de vécu.
Wow.
Ce qui est peut-être paradoxal, mais ouais. C'est vraiment une scène.
Ouais.
Je l'ai vraiment écrit comme une scène, enfin, scène narrative, mais qui est très éloignée de finalement mon enfance.
Le sujet de ce livre, par les deux angles, c'est-à-dire par la famille et par cette jeune femme, je ne sais même pas si on connaît le nom de la jeune femme.
Il est mentionné à un moment dans le roman, mais c'est anecdotique.
Voilà, donc cette jeune femme, en fait, le lien, la jonction, c'est le travail. Parce que dans ce livre, vous parlez, la fille regarde son père aller au travail, revenir du travail, raconter des anecdotes du travail. Et cette jeune femme qui se fait embaucher dans ce fast-food, alors qu'elle est obligée de tricher pour répondre aux questions, j'imagine qu'on appelle ça un manager, qui lui dit « Alors, vous allez rester combien de temps ? Est-ce que c'est l'été ? Est-ce que c'est plus que l'été ? Est-ce que ça va être plus long ?» Enfin, on sent, mais ce sont la charnière en fait, du roman, c'est bien la question du travail.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la question du travail, c'est la question du geste de travail. Geste de travail qui fait écho au geste d'enfance, puisque les enfants jouent au travail à un moment où il y a une scène de marché entre les deux enfants, donc le frère et la sœur. C'est vraiment ce que les enfants voient le plus, c'est-à-dire que leurs parents partent de la maison pour aller au travail et qu'ils en reviennent. Et ce qu'ils ramènent du travail, ce sont des histoires. Mmh. C'est ça qui était pour moi le plus intéressant, c'était les histoires que le père racontait aux enfants. C'est peut-être ça le lien, en fait. Et à l'inverse, enfin, la narratrice au fast-food, l'équipière au fast-food, elle ne raconte rien à personne, ne rentre même pas chez elle. Et tout, par contre, se joue dans le regard. Elle voit.
Oui, elle est, c'est assez, elle est assez mystérieuse. On ne sait pas la positionner, cette femme, parce qu'effectivement, elle ne dit rien. On ne sait presque pas pourquoi elle candidate à cet endroit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui ne semble pas être étudiant, postule à un endroit, à un travail de cette nature-là, on ne connaît pas sa vie économique, on ne connaît pas sa situation, on ne sait rien d'elle en fait. Hein. Enfin, vous ne nous dites rien d'elle.
Non, et en même temps, c'est un peu le profil des personnes qui postulent dans les fast-foods, c'est-à-dire que c'est une grande partie d'étudiants quand même, et cette narratrice, on suppose qu'elle l'est, puisque dans l'entretien d'embauche, il y a cet instant où le directeur de l'établissement, donc le franchisé, pose la question « Oui, vous avez la rentrée scolaire, d'accord, alors est-ce que vous allez partir à la rentrée ou est-ce que vous allez pouvoir rester un petit peu après les vacances d'été ?» C'est ce profil-là qui est le plus courant. La plupart des étudiants font ça comme premier travail. Mmh. Ce que je voulais, c'était montrer en fait, une jeune femme qui fait peut-être sa première expérience de travail.
Mais là, par contre, il y a du vécu.
J'ai travaillé en fast-food, effectivement. Je pense que c'était... je ne vois pas comment j'aurais pu l'inventer. Enfin, j'ai travaillé au fast-food quelques mois. Je suis revenue de ce fast-food en écrivant dessus, sans avoir écrit d'ailleurs pendant que j'y travaillais dessus, c'était impossible. Mais j'ai écrit dessus ensuite et je n'ai plus cessé. Et après avoir écrit le roman, je suis retournée au fast-food.
Retourner manger.
Retourner travailler.
Travailler.
Oui, quelques mois.
Quelques mois.
C'est une écriture encadrée en fait par le travail.
Est-ce que c'est là que s'est déclenchée l'écriture, non pas l'écriture de ce roman, mais l'écriture chez vous? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle se déclenche, ou elle existait avant, sous d'autres formes, d'une autre manière?
L'écriture, elle était déjà présente chez moi avant. J'ai beaucoup écrit sur l'enfance, essentiellement, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était peut-être d'abord les enfants, le quotidien des enfants, l'ennui des enfants, le temps de l'enfance. Et en fait, l'expérience de travail peut-être a créé une collision, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est de l'ordre de la collision, ce que vous soulignez tout à l'heure avec les deux fils, le travail et les enfants.
Mmh. Alors, le travail, c'est un thème qui est souvent exploré dans la littérature française. Enfin, il y a une grande bibliographie. Moi, toutes les interviews que j'ai lues de vous font référence à Robert Linhart, Joseph Pontus, Thierry Metz, donc des repères dans cette littérature-là. Moi, je voulais rajouter à cette liste, il y a le travail, on en a parlé un peu hors micro, d'Elsa Feiner, qui a écrit un bouquin sur les hôtels, sur les femmes de ménage dans les hôtels, qui s'appelle « Et pourtant, je me suis levé tôt ». Il y a nécessairement le livre de Florence Aubenas, « Le quai de Ouistreham », enfin, qui sont des repères. Mais là, on n'est pas... pour Florence Aubenas ou Elsa Feiner, on est dans un travail à tendance sociologique. Vous, en salle, c'est un roman. En quoi ce roman-là, il se différencie des auteurs que je viens de citer, de Joseph Pontus ou de Robert Linhart?
Oh, je ne sais pas si je vais savoir vous répondre. Ouais. Je ne sais pas si je vais avoir une réponse à votre question. En tout cas, ce sont des lectures que Pontus, Metz, Linhart, je pense aussi à Martine Sonnet, qui est historienne de formation, mais qui avait publié l'Atelier 62 sur son père forgeron aux usines Boulogne-Billancourt. Ce sont des lectures que j'ai faites avant d'écrire. Et il était extrêmement important pour moi de les avoir faites avant même de commencer à écrire sur le travail. C'est-à-dire, comment écrit-on le travail? Comment écrit-on le geste de travail? Donc, je ne sais pas, c'est ça qui me lie à eux, mais presque comme une dette. Enfin, cette écriture-là, elle n'a pu se faire que dans les traces de tous ces auteurs. Et j'ai une pensée pour Joseph Pontus, toute particulière, évidemment.
Mmh. Mais il n'y a pas de... Dans la lecture, dans les séquences, c'est bien un récit alterné. Donc, on change, on passe d'un moment à l'autre, d'une séquence à l'autre, enfin vraiment très rapidement, d'ailleurs, à certains moments. D'ailleurs, on est des fois surpris par le paragraphe suivant parce qu'on était dans un climat et on passe dans un autre. Mais sur la question du travail, il ne me semble pas que vous développiez quelque chose qui soit de l'ordre du revendicatif. On est plutôt dans le constat, en fait, presque une écriture très clinique, en fait, de la situation dans ce restaurant.
Oui, alors les premiers textes liés que j'ai écrits dans salle étaient plus marqués par cet aspect-là, enfin, cette espèce de revendication-là ou d'une sorte de colère, en fait, vis-à-vis de ce travail. Mais finalement, à mesure de travail, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas tant que ça et que c'était surligner quelque chose, en fait, qu'il n'y avait pas lieu d'être souligné, puisqu'en fait, on sait comment se passe le travail là-bas. Je veux dire, le lecteur peut avoir cette colère. Moi, dans l'écriture, j'ai souhaité l'évacuer, et c'est la passivité de la narratrice au fast-food, l'équipière au fast-food, c'est-à-dire, en fait, qui a ce comportement qu'ont la plupart des gens qui y travaillent, puisqu'il n'y reste que 2-3 mois, et personne n'aurait à les blâmer pour ça. Qu'engage-t-on quand on travaille 3 mois dans un fast-food, comment peut-on vraiment s'engager? Ce sont des questions épineuses et qui sont encore aujourd'hui, qui sont très actuelles, qui se posent aujourd'hui.
Alors, il y a donc ce roman, cette écriture, dans l'émission Totémique sur France Inter, le 16 novembre 2022. Il faut toujours citer ses sources. Vous dites que l'écriture permet de regarder, de donner du sens au travail dans un fast-food, mais elle vous a permis d'avoir un regard rétrospectif pratiquement sur cette expérience que vous avez faite.
Oui, ce que j'ai constaté, c'est que dans ce lieu de travail, dans le fast-food, qui est un lieu illimité, qui est un temps de travail presque illimité, c'est-à-dire que ce que j'avais souvent l'habitude de dire, c'était que parfois, il y avait cet instant où on plonge une panière de frites, on lance un minuteur, on part, parce qu'on sait que quelqu'un d'autre va continuer. C'est ça que je veux dire quand je dis illimité, pour être très précise. Et en fait, je viens d'oublier ce que je voulais dire, mais ce lieu illimité, j'ai réussi avec le roman à en faire... J'ai terminé le travail avec le roman. Et on ne peut jamais terminer le travail dans ce genre de lieu, enfin... Dans la restauration rapide, on ne finit jamais. Le roman, c'était une façon de finir, de terminer.
Pourquoi on ne finit pas ? Enfin, pourquoi vous avez eu le sentiment que le travail n'était jamais fini dans le moment où vous y avez travaillé ? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette conscience d'infinition, enfin de ne jamais, de ne pas finir ?
Alors ça tient peut-être à plusieurs choses, mais déjà, le service continu, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on sert à manger toute la journée et jusqu'à 4h, 5h du matin. Donc, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et les instants dont on parlait tout à l'heure, enfin, les instants où il y a des commandes qui s'accumulent, on a l'impression que ça ne finira jamais. C'est vraiment quelque chose qui se sent tout au long du travail. On a l'impression qu'on ne fermera pas, que ça ne fermera jamais. Ce sont des lieux qui veulent, enfin, leur communication et s'appuie là-dessus. On est ouvert tout le temps, vous pouvez venir quand vous voulez, et les équipiers le sentent aussi, ils ont l'impression d'être tout le temps au travail, alors même qu'il n'y a pas de temps plein. Par exemple, le temps plein au fast-food, c'est 24 heures, mais en fait, on a l'impression d'y être sans cesse. Et l'équipière dans le roman, il s'y trouve en permanence, elle ne sort jamais.
Alors, je voudrais... faire une ou deux sites. Non, gardez la marque. Passez-moi le livre, par contre. Merci. On est en direct. On parle bien, malgré tout. C'est un roman. C'est un roman qui raconte une séquence de vie, mais c'est un roman qui est écrit. Et moi, j'avais observé, il y a quelque chose de très particulier dans votre écriture. Vous avez une manière de regarder très, très fine, de noter les détails. Alors, j'en prends un parce que c'est toute l'ouverture au début. C'est la petite fille qui parle. Je fixe gravement le porte-clés d'un sac à dos. Mon père a ouvert sa veste. Il tripote sa sacoche et s'agace. Je vois rien. C'est où les frites ? On est dans les micro-détails et on retrouve ça régulièrement dans ce livre. La faculté que vous avez à saisir des infimes détails. Par exemple, il y a un moment donné, il y a le carillon d'un four qui sonne parce que la cuisson est terminée et vous arrivez à donner juste le mot qui va vraiment spécifier cette sonnerie qui va créer un climat. C'est long d'écrire ce genre de choses, enfin de trouver simplement le bon mot.
Long un petit peu, enfin c'était surtout retranscrire l'atmosphère et toutes les sonorités qu'on entend dans le même temps sans passer par l'onomatopée par exemple. C'était quelque chose qui... Enfin, ça relevait d'une espèce de défi au tout début, puisque les premiers textes que j'ai écrits étaient relatifs au travail aux frites, où il y a le plus de sonorités, enfin, il y a le plus de sons, en fait, de sonneries. Et ça, c'était vraiment presque formellement, ça m'intéressait. Je me disais, tiens, comment on rend les ordres, en fait, de la machine, qui sont des sonneries, mais donc des ordres, c'est-à-dire telle sonnerie, il faut secouer, telle sonnerie, il faut sortir les frites, telle sonnerie, il faut ouvrir un four... Ou alors il faut appuyer sur un écran de tablette pour les commandes internet. Enfin, c'était difficile, mais ça m'a stimulé au début. Enfin, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire les premières scènes.
En tout cas, on est derrière cette personne quand elle est aux frites. Enfin, j'ai les séquences quand elle est aux frites et que on a le cadencement des gestes. On voit toute la chorégraphie en fait qui est autour de ce mouvement, l'équipier qui arrive avec les sacs des frites, qui va déverser les frites pour jamais perdre de temps, toujours être dans le mouvement, et on le vit vraiment pleinement. En tout cas, moi je l'ai vécu pleinement. J'ai fait d'autres boulots dans ma vie un peu fastidieux et j'ai retrouvé un peu ces impressions. Est-ce que pour ce roman, est-ce que le point d'arrivée, c'est-à-dire le roman fini, est très différent du point de départ du projet?
Je n'avais pas pensé à la fin, si c'est votre question. En commençant d'écrire le roman, peut-être de la même façon que le travail était limité, je ne voyais pas quelle pouvait être la fin de ce roman. Ou alors, elle est trop évidente, c'est-à-dire que la fin, c'est quand on arrête d'y travailler. Ce qui n'est pas vraiment vrai, puisque j'ai continué à écrire dessus après et qu'ensuite j'y suis retournée. Est-ce que c'est vraiment la fin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne m'attendais pas à arriver à cet endroit-là. Je m'attendais à arriver à cet endroit du souvenir, pour reprendre le fil de narration autour de la famille. Je savais quels allaient être les souvenirs qui allaient jalonner le récit. Au fast-food, j'ai eu plus de difficultés à trouver l'endroit où est-ce qu'on débouche, en fait. Qu'est-ce qui fait la fin? Je pense que c'est une question que tous les auteurs peut-être se posent.
Alors, dans vos référence, avant de vous entendre lire un passage de ce roman, dans vos références, il y a Henri Calais. Alors, c'est un auteur qui est quand même peut-être, je pense, un peu oublié. Henri Calais, pourquoi ?
Henri Calais, ça, c'est une recommandation de mon libraire, Laurent Évrard.
Excellent libraire.
Qui est un excellent libraire, voilà, qui est un des meilleurs libraires
du monde.
Et en fait, oui, Henri Calais, La belle lurette, très précisément. C'est un texte qui était absolument magnifique, que j'ai beaucoup aimé lire. Pourquoi ? Peut-être sur cet aspect populaire, enfin, je veux dire, comment on fait les jours, en fait, avec certaines difficultés d'argent. C'est une lecture qui n'a peut-être pas marqué en profondeur l'écriture finale du roman, mais d'une certaine façon, toutes ces lectures-là se sont déposées quelque part. Et je suis très heureuse d'avoir découvert Henri Calais à ce moment du travail. C'était une découverte incroyable.
Alors, quelle est la part d'autobiographie dans ce livre ? Parce qu'il y a des références qui sont très précises. Quand vous parlez de beignets à Charchigné ou de Radio Béton qui est à Tours, c'est du vécu ?
Tout pourrait être du vécu, oui. Ou du mensonge, enfin, oui. C'est toujours un peu mêlé, ce serait difficile de dire à cet endroit précis, surtout qu'en plus, parfois, on croit que c'est un souvenir précis. Par exemple, il y a des choses que j'ai écrites où je me disais, ça, c'est vraiment comme ça, que telle petite chose s'est passée, puis quelqu'un me disait, non, pas du tout, enfin, ça n'avait aucun rapport avec ce lieu, aucun rapport avec... Enfin, le souvenir est toujours une reconstruction, donc en fait, j'ai l'impression que la part autobiographique, enfin, et de toute façon... mêlée, tellement reprise en fait que je ne vois plus en fait tout ça. C'est devenu un objet à part entière.
Alors, avant de faire une pause musicale, je vous propose de nous lire un passage de En Salle.
Très bien. Je vais lire le premier texte que j'ai écrit, qui se trouve aux frites. Ce midi, un roulement, je suis frite. Les autres me disent bon courage et la formatrice réapparaît, c'est reparti. 4h30 à faire, j'enfile le tablier de plastique, j'y suis. Il me donne les consignes, au son strident et lent, il faut secouer les panières. À ce court et pressant, sortir les frites de l'huile. D'autres sonneries retentissent, mais ils disent c'est rien ça, tu n'as qu'à appuyer. Je jette un coup d'œil à l'écran des commandes, juste au-dessus de ma tête. Je ne lis pas. Je vois bien qu'il y en a trop, j'appuie sur le bouton. Des rectangles surgelés tombent dans la panière. Je la saisis, mon poignet ploie, je la plonge, et le minuteur commence le décompte. Les équipiers derrière moi disent « Augmente ta prod là, fais ta prod, allez !» L'appel à frites dans la main, je remplis les cornets, racle les bacs, mais les alarmes m'arrêtent. Je lâche tout, réponds à l'appel. J'appuie, la sonnerie s'arrête, je secoue la panière, j'en plonge une nouvelle et mon soulagement dure 4 secondes, il faut valider. 20 secondes, il faut secouer, 3 minutes, il faut sortir les frites. Une équipière me reprend. Pourquoi tu lâches ta pelle ? Je veux que tu ne la relâches que quand tu as fait toute ta prod. Je ne suis plus seule avec mes frites. Ils surveillent mon travail de la façon dont je tiens la pelle au mouvement des panières. Je dois enchaîner, reprendre l'outil, remplir. Les cornets partent sitôt près. Je tasse dans les sachets, dans les boîtes, je coule. Les commandes s'alignent. Quelqu'un me dit en fait, il faut que tu plonges dès que tu relèves une panière, tu vois ? Tac, tac, tu vois ou... Pourquoi tu ne le fais pas alors ? Les signes sonores, lents, deux en même temps, rapides, au début j'hésite. C'est la friteuse qui sonne ou les poissons panés plus loin dans la cuisine. À la fin, je sais. Le bruit vient de ma poitrine, comme quand les basses la font vibrer, comme quand je posais ma main d'enfant sur mon cœur avec l'impression qu'il allait exploser, au son des démons de minuit. De nouvelles alarmes, les commandes internet sur le tableau de bord derrière moi, mes mains sont trop grasses. Le bruit me fatigue, je secoue la panière, lâche, reprends, ça sonne. Volte-face, la pelle avec le sachet au bout, la panière suspendue au-dessus des cuves, égouttée, secouée doucement. L'huile crépite et vient pincer mes avant-bras. Allez, c'est bon là, il faut pas y passer des heures non plus. Je la vide, je la jette avec les autres. Les clients qui renvoient leurs frites trop froides ont envie de plonger leurs mains dans l'huile bouillante, les miennes rouges, le sel griffe.
Merci Claire Baglin pour cette lecture et on fait une pause musicale.
Un jour ou l'autre, noircissent les drapeaux, les colères enflamment de nouveaux troupeaux. Les bruits de bottes et les cris, et je me suis cru à l'abri. Mais est-ce que s'éloigne un jour de l'homme la barbarie ? Un jour ou l'autre, les turbulences. Un jour ou l'autre, on se prend à désespérer. Est-ce que notre descendance connaîtra à son tour les petits matins sans violence, la paix et l'innocence ? Un jour ou l'autre, se déchaîne le feu des passions. Leur avance, elle nous pousse à prendre position. Un jour ou l'autre, en nous-mêmes, on fait connaissance avec des peurs profondes, mais aussi courage et conscience. À l'heure des loups, vient le temps des liens. À l'heure des loups, vient le temps des liens. De porcelaine, pas un acquis. La paix conquise par ceux qui prennent le maquis. La paix fiancée à la conscience et dont la vigilance est pour toujours le prix. Alors quoi ? Vivre la boule au ventre, barricader et regarder le monde en spectateur apeuré ? Ou débrancher quelques écrans sanglantés ? On sait plus quoi foutre de la trouille qui nous agite sous le nez. Moi les bras m'en tombent, impuissants et cafards, quand y a tant besoin d'agir et d'y croire. Et ne laisser en moi déjà aucun effroi gouverner, ni aucune des plus belles idées abdiquer. Rencontrer le monde encore, sans repli, sans trembler, le regarder dans les yeux et sincèrement aimer, aimer, de mille et mille façons aimer. Les liens ceux-là même qui savent bien désamorcer de grandes haines. Les liens, les proches et les lointains, dans les forêts de béton où chacun grandit dans son coin. Les liens, est-ce que ça suffit quand se propagent de grands incendies? J'en sais rien, mais je me dis, des liens par millions, des petits bras, des empathies, et de l'humanité commune brandie comme une patrie. Alors confiance dans les gens, même en de drôles de temps, garder vivant de l'amour résistant, mettre l'humain au cœur, et le cœur à la lutte, et en face des terreurs, poser un monde plus juste. L'humain au cœur, le cœur à la lutte, et en face des terreurs, poser un monde plus juste. L'humain au cœur, le cœur à la lutte, et en face des terreurs, poser un monde plus juste.
D'écouter Qual, autrement dit Vincent Loiseau, qui a slamé les liens. Vous êtes bien sur Radio G, fréquence 101.5, et vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Aujourd'hui, je reçois Claire Baglin, autrice de En salle, publié aux éditions de Minuit, et Clément Camard-Mercier, qui a publié le roman de Jeanne et Nathan, et non pas le roman de Jeanne et de Nathan, je pense que... J'ai failli faire l'erreur. Publié aux éditions Actes Sud, tous deux en résidence à la maison Julien Gracq. Nous avons entendu avant la pause musicale Claire Baglin. Et maintenant, venons-en à vous. Bonjour Clément Camard-Mercier.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quelques mots qui vous êtes, en quelques mots?
Donc je suis l'auteur de ce premier roman, le roman de Jeanne et Nathan. À côté de cette activité d'écriture, j'ai un job alimentaire qui est celui de traduire Shakespeare pour le théâtre. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai commencé et je réponds à des commandes de metteuses ou de metteurs en scène qui, quand ils veulent monter un Shakespeare, me demandent de le retraduire parce que je crois, comme quelques autres, qu'à chaque nouvelle mise en scène, il faut une nouvelle traduction de Shakespeare tellement... Cet auteur peut être interprété de mille et une manières.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, là aussi, en présenter, nous dire de quoi parle ce roman, le roman de Jeanne et Nathan?
C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme qui se rencontrent en cure de désintoxication. On peut imaginer qu'ils ont quelque chose dans leur vie qui les a emmenés ici. Lui est prof à l'université et elle est actrice pornographique. Et il se trouve que leur addiction aux deux est la drogue. Et ils vont rencontrer en clinique de désintoxication toute une galerie de personnages addicts à mille et une choses aussi. Parce que donc, en clinique de désintoxication, les drogues ne sont vraiment pas la majorité des choses qui occupent les patients, hein, jeux d'argent, pornographie, vous trouvez toutes sortes de choses dans ces endroits-là. Et ils vont se rencontrer à ce moment-là, donc le début du livre, vous allez suivre leur vie de manière alternée, et puis ils vont se rencontrer en clinique des intoxications pendant le confinement, pendant un confinement, on ne saura pas de quel virus, mais... largement inspiré, je crois, du dernier confinement que nous avons vécu, et seul, que j'ai vécu, moi. Et ils vont décider de partir sur les routes de France, essayer de se reconstruire et de comprendre pourquoi ils en étaient arrivés là et comment ils vont pouvoir s'aimer dans ce monde-là.
Alors, pour paraphraser Jane Austen, votre roman, est-ce qu'il aurait pu s'appeler Orgueil et vanité?
Oui, pour ce qui est de la première partie du livre. Mmh. C'est vraiment un livre... Enfin, j'entends surtout vanité, oui, parce que sur l'addiction de nos sociétés, et je crois que le concept même de l'addiction, et je pense que ce n'est pas du tout un livre sur la drogue, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on vit, et nous sommes poussés à le vivre sous le régime de l'addiction, et qu'on est tous concernés par l'addiction, et que finalement, c'est un autre mot pour vanité, ou supporter la vanité. Pour ce qui est de l'orgueil, oui pour le personnage de Jeanne, moins pour celui de Nathan.
Oui, effectivement. Peut-être un orgueil au début, donc la première partie, et au début de la séquence après le centre de désintoxication, mais peut-être qu'on y reviendra. Le théâtre est présent dans ce livre, presque paradoxalement. Il est présent pas par rapport à Nathan, le professeur. On pourrait s'attendre que c'est plutôt lui qui serait un peu l'intercesseur. Mais non, c'est Jeanne. Elle doit tourner un film pornographique à partir de Phèdre, de Racine. Et elle cite La Rochefoucauld dans les scènes pornographiques. Le placement du théâtre à cet endroit, ça dit quoi de votre projet ?
Alors, le théâtre est partout dans le livre, comme je vous ai dit, parce que mon activité principale est dans le théâtre. En fait, il y a plein de choses de théâtral, mais précisément pour le personnage de Jeanne, et vous touchez un point qui m'intéressait, c'était de créer des personnages, que ce soit le prof d'université ou l'actrice pornographique, qui ne correspondent pas du tout au canon ou aux attentes ou aux croyances sur... ce que sont ces gens-là. Et donc, j'ai décidé, parce que ça existe aussi, de créer une actrice pornographique qui ne faisait pas par besoin ou par nécessité pécuniaire, ou, comme ça existe aussi beaucoup, mais par volonté politique. Et j'ai aussi décidé que ce soit, comme ça existe, une personne cultivée qui a fait des études et qui, justement... trouve que ce qu'elle tourne, c'est pas assez intelligent. Ce qu'elle tourne est quand même un peu bête et qu'elle essaie, en fait, de repoétiser ce monde qui est devenu la sexualité à travers la pornographie. Pour ce qui est de Nathan, à l'inverse, on s'imagine justement souvent le professeur d'université comme un grand savant un peu sûr de lui. Et j'ai choisi d'en faire un grand dépressif solitaire.
Et cynique.
Et cynique.
Et cynique. Moi, elle m'a fait penser, cette Jeanne, hein, alors qu'on surnomme Jeannette, c'est vraiment détestable comme surnom, elle m'a fait penser à Ovidie, la comédienne qui a tout un parcours, hein, qui a commencé dans le cinéma pornographique et puis qui a montré qu'effectivement, c'était pas... on ne pouvait pas se contenter de coller des étiquettes comme ça sur les personnes. Ça donne aussi lieu à de... Il y a un peu d'humour, mais dans ce roman, alors les séquences qui concernent les tournages pornographiques, qui sont dures, enfin pour moi très dures, hein, qui ont été très dures, il y a une chose que vous n'oubliez jamais de faire, c'est qu'on est dans un roman. Vous rappelez, vous interpellez le lecteur à plusieurs reprises, hein, en lui rappelant, attendez, on est dans un roman. Dans ce procédé, vous avez cherché à désamorcer quoi en faisant ces rappels ?
Alors, il y a plusieurs choses sur la... c'est amusant que vous, dans cette question-là, il y a justement, c'est la dureté, vous dites la dureté des scènes.
Oui.
J'ai décrit vraiment des scènes qui existent en quantité incommensurable sur Internet. J'ai décrit des scènes qui sont vraiment dans les moins pires que ce qu'on trouve sur Internet. Et j'ai décrit des scènes dont l'âge moyen pour commencer à les regarder est aujourd'hui 10 ans. Et j'ai regardé des scènes qui sont consommées en moyenne 3 heures par semaine par les adolescents de 16 ans. Je voulais juste rappeler ces choses-là. Et comme mon personnage est une actrice pornographique, voilà, il n'y a aucun... dans cette partie-là, voilà, je décris son métier comme je décris des cours de fac de manière très simple et réaliste. Pour ce qui est de cette distanciation, parce que là, justement, c'est encore un truc de théâtre, finalement, que Shakespeare utilise et théorisé après par Bertolt Brecht. C'est-à-dire que quand vous racontez quelque chose, quand vous montrez quelque chose sur scène ou là, dans un roman, je voulais absolument m'éloigner, jusque dans le titre, hein, c'est le roman de Jeanne et Nathan, c'est-à-dire que je voulais m'éloigner de cet aspect de réalité, de crédibilité, de réalisme, ce qui ne veut pas dire que le livre n'est pas réaliste. Je viens de dire que je décris des choses réalistes, mais je ne voulais pas être celui qui assène ça comme quelque chose qui est dénoncé. Et de passer par le prisme de la fiction me permettait justement de dire, je vous rappelle que c'est un roman, sauf qu'en disant ça, évidemment, je ne fais que dire, vous savez que c'est réel.
Alors, on est vraiment dans une... Enfin, à mes yeux, on est dans une tragédie. Il y a la descente aux enfers, il y a la rédemption, et puis il y a le destin qui frappe une dernière fois. C'était ça votre projet, écrire une tragédie?
Alors, tout à fait. Je préfère tragicomédie. Juste dans le sens où la tragicomédie peut se terminer mal, mais contient à l'intérieur des moments comiques. Parce que je crois que, en tout cas j'ai essayé, que tout ne soit pas traité sur le ton tragique. C'est pour ça que j'entends tragicomédie, c'est-à-dire que la fin du livre est tragique. On le sait grâce à un compte à rebours qui est clairement mis en place dès le début du livre, qui est là justement pour enlever toute forme de ce qu'on appellerait de suspense, parce que la tragédie, vous savez qu'à la fin, il va mourir. Ce qui est intéressant, c'est comment on y va, la tragédie grecque. Hein. Quand on allait voir tragédie, c'est qu'il meurt, et comédie, c'est qu'à la fin, il y a un mariage. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a tous les thèmes de la tragédie, et Phèdre est nommé, qui est la tragédie française la plus célèbre et à mon goût la plus réussie. Mais je tiens à que soient rappelées mes tentatives, peut-être vaines et ratées, mais mes tentatives comiques.
Alors, dans cette... moi, je l'ai défini comme une tragédie, mais c'est comme ça. Peut-être que ça m'arrange, mais c'est pas très grave.
Non, mais vous avez raison, une tragédie, c'est quand ça se termine mal. Donc.
Et ça se termine mal.
Voilà.
Dans la première partie, l'exposé, la descente aux enfers, parce qu'on est dans une descente aux enfers des deux. Celle de la descente aux enfers de Jeanne est aussi scandaleuse que celle de Nathan. Et au sens que vous donnez au terme scandale, dans la forme, dans ce que vous donnez à lire, mais pas dans le fond.
C'est-à-dire ?
Vous revenez à plusieurs reprises en disant, alors c'est la vieille phrase, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Vous la déclinez à plusieurs reprises. Et ce qui peut paraître scandaleux dans l'évolution de la situation des deux personnages, parce que avant qu'ils entrent tous les deux en cure de désintoxication, c'est terrible. Et ça pourrait, à nos yeux de lecteurs, être scandaleux d'avoir écrit ça, mais le scandale, il n'est pas là. Il est dans ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que malgré tout, il y a de la réalité dans tout ça.
Oui, il est... oui d'accord, je comprends. Oui. Vraiment, il n'y a eu aucune intention de scandale quand j'ai écrit ça. Après, oui, ça décrit une réalité scandaleuse, mais je pense que pas seulement, enfin, après, toute réalité est scandaleuse. Je crois que la chose la plus scandaleuse, parce que j'ai essayé de ne pas non plus porter de jugement sur la pornographie, la réalité la plus scandaleuse que j'ai tenté de décrire dans le livre, c'est cette réalité de cette mutation de société de consommation en société d'addiction, où vraiment, je pense, et je le répète, qu'on devient de plus en plus tous drogués, quelle que soit la substance ou l'appareil. Et je pense que le prochain le cataclysme sanitaire sera lié au téléphone portable. Alors là, j'en rajoute là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est vraiment scandaleux pour moi, c'est pas finalement leur consommation de drogue ou la pornographie. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on est tous devenus drogués.
Alors, comme les moments où dans le roman, vous rappelez qu'on est dans un roman, il y a aussi cette... juste au moment où ils vont décider, l'un et l'autre, d'entrer en cure de désintoxication. Il y a une scène sidérante, enfin, il y a deux scènes sidérantes qui se déroulent, mais en fait, ces scènes, elles semblent avoir été fantasmées. Elles semblent ne pas s'être produites dans la réalité. En tout cas, les informations qui leur parviennent leur montrent que ce qu'ils ont cru vivre, ils ne l'ont finalement pas vécu. C'était impossible de laisser le lecteur seul avec ces scènes-là ?
Non, c'était impossible de laisser les personnages avec ces scènes-là. Ce que je trouvais intéressant, en mettant le doute juste sur la réalité ou pas de ces scènes, le doute qu'on aura un peu plus tard, c'est-à-dire quand on les lit, on pense qu'elles sont réelles. Je voulais finalement que si ces scènes ne sont pas réelles, si elles sont inventées, c'est les scènes qui leur ont permis de décider, de dire « bon, là, ça suffit, il faut que je me soigne ». Et se soigner, pour Jeanne, c'est rencontrer Nathan, et pour Nathan, c'est rencontrer Jeanne. Donc, il y avait quelque chose aussi dans ce geste qui n'était pas forcément quelque chose lié à une situation, mais aussi qui leur était soufflé par leur inconscient. S'ils ont fantasmé ces scènes-là, c'est bien pour se rencontrer. Et c'est là où je reprends finalement le côté destinal du livre. Et donc, si le destin agit, cette hallucination qu'ils ont eue au même moment tous les deux, qui les a amenés à se rencontrer, a été provoquée par quelque chose qui est le destin ou celui qui écrit le livre, tout simplement.
On peut parler de destin, n'hésitons pas. Alors, il y a cette phase de... Il y a la rédemption. Ils entrent en cure de désintoxication. Ils ne se rencontrent pas immédiatement. Il va falloir qu'ils vivent dans le centre pendant un moment. Ils vont se rencontrer, ils vont s'aimer. Ils se trouvent dans un lieu de vie. Ils se trouvent à la sortie du centre de cure dans un lieu de vie, finalement, somme toute assez idyllique. Est-ce que si le terme de rédemption pour qualifier cette séquence du roman, elle serait à peu près juste ?
Oui. Alors bon, la rédemption, c'est le rachat du Christ de nos péchés par sa mort, si on revient au terme. Donc, c'est d'autant plus juste que, et je le dis à plusieurs reprises dans le livre, que Jeanne est un personnage christique, ou en tout cas a envie d'être un personnage christique, parce qu'elle décide justement d'être... de subir toute la violence qu'elle subit au quotidien, en pensant que, puisque c'est elle qui l'a subie, d'autres ne vont pas la subir. Elle décide de souffrir pour les autres. Donc finalement, cette rédemption, elle prend sur elle cette rédemption de l'humanité. Évidemment, c'était voué à l'échec, puisque beaucoup de gens disent de la pornographie que ça nous permet d'enlever... de faire diminuer les crimes sexuels, la violence ou les violences sexistes et sexuelles. Je pense que on peut maintenant dire que ce n'est pas le cas. Donc cette rédemption était un échec. Donc maintenant, il faut qu'elle s'occupe d'elle, de s'occuper d'elle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver le monde. Et en fait, se détruire pour sauver le monde n'est pas forcément quelque chose qui l'a amené sur le bon chemin. Donc c'est une rédemption, oui, mais qui n'est pas une rédemption donc, pour les autres, qui est le terme de rédemption normale, mais c'est une rédemption à deux pour eux-mêmes. Donc oui, c'est là, on peut parler de rédemption. Peut-être qu'ils se rachètent chacun l'un l'autre.
Alors, il y a le destin. Parce que c'est alors tragicomédie, mais il y a le destin. Et est-ce que le destin, ce n'est pas finalement le docteur Aubry, le responsable du centre de désintoxication, qui va les autoriser à partir avant la fin de la cure ? Voilà, est-ce que ce n'est pas lui, finalement, qui va tout faire, qui va les emmener à la fin, à la catastrophe.
J'avais jamais entendu ça comme ça. Alors, il se trouve que le problème, c'est peut-être finalement la psychanalyse.
Moi, j'ai dit le docteur Aubry.
Oui, tout à fait. non, oui, mais après, comme tout destin, c'est le docteur Aubry, mais c'est aussi tel ou tel choix, c'est évidemment. Mais c'est vrai que après, il les libère, il dit, il ne peut garder des clients dangereux, des patients dangereux de force que si ils avaient demandé à être gardés de force. Hein. C'est pas un centre de rétention, c'est une clinique. Donc vous pouvez entrer dans les cliniques de désintoxication en demandant d'être retenu si on appelait à partir, etc. Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc en fait, il n'a pas le pouvoir de les retenir, mais il les met quand même, je trouve, suffisamment en garde.
Je ne sais pas. Alors, juste, avant de vous demander de faire une lecture, on a parlé de rédemption, etc. Alors, il y a cette image extraordinaire de Nathan qui va rejouer la scène de Moïse en laissant son enfant partir au cours de l'eau dans son berceau. Là, il y a quoi là, dans cette scène-là ?
Alors, bah, vous parliez du personnage de Jeanne, de la figure christique, et c'est un corps nommé dans le livre. Nathan est d'éducation juive. Mm. Et il a un problème avec son père, pas avec sa mère, pour sortir un peu des clichés, mais qui prend une part importante dans le début du livre et dans le personnage de Nathan en général, évidemment. Et en abandonnant cet enfant, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il tue le père.
Je vais vous demander de lire un passage de le roman de Jeanne et Nathan.
Alors, c'est au moment où, dans un groupe de parole à la clinique, ils se rencontrent. Ils n'écoutaient plus rien. Les conseils, le pourquoi des règles de l'hospice, les histoires minables de chacun, la déchéance, la santé, la drogue. Tout cela lui était bien égal, puisque Jeanne existait et qu'il l'avait rencontrée. Que faisait-elle avant qu'ils ne se rejoignent ? Ils voulaient tout savoir. À vue de nez, ils avaient presque le même âge, étaient de la même génération. Ils vivaient donc en parallèle deux vies différentes qui les avaient chacune portées ici. Quand ils respiraient, elles respiraient aussi. La mémoire vint. Chaque fois qu'elle évoquait dans sa prise de parole au sein du groupe ses propres souvenirs, il savait précisément où il se trouvait, ce qu'il accomplissait à ce moment-là. En tout cas, se l'imaginait-il, et c'est comme si c'était vrai. Leur passé se rejoignirent. Elle ne nourrissait pas le cercle, elle n'était plus en pleine thérapie. Elle voulait l'invoquer, lui, et lui seul devait y répondre. Leur vie ne formait plus qu'une seule ligne claire. Nous pouvons être à un endroit et simultanément à un autre. Il avait bien suivi ses cours de physique. Leur sort était dorénavant inséparable. Encore fallait-il qu'elle tombât amoureuse de lui. Il ne préférait pas penser à la possibilité d'échouer. Toute sa vie, il avait essayé de se délivrer de la peur de l'échec. Il ignorait que ce coup de foudre fût réciproque, qu'au même instant, ils s'aimèrent. Il voulait maintenant se souvenir, connaître la connexion intime de leur vie. Le montage parallèle n'existe pas. Il l'a assez dit et redit à ses élèves. Le mot n'est pas le bon. S'il le lisait dans une copie, il enlevait deux points. Pour qu'il y ait montage parallèle, il faut que les deux actions montées en alternance n'aient aucun rapport entre elles. Aucun. Il n'y a que Griffiths qui ait osé. Tomber amoureux, c'est quand un montage parallèle devient enfin alterné. C'est-à-dire quand on comprend ce qui réunissait deux histoires, apparemment sans connexion. C'est quand deux vies passées, souvent à se battre, font la paix. La logique veut que nous existions en même temps que les autres, chacun dans une temporalité différente, mais similaire. Nathan et Jeanne vivaient simultanément à la surface de la Terre. De leur rencontre naît ce livre.
Merci pour cette lecture. Avant de passer à la pause musicale, je pense qu'il aurait fallu qu'on parle de Bret Easton Ellis, mais on n'a pas le temps et c'est dommage. Alors, une pause musicale. Thank you. d'écouter Teresa. C'est un extrait du très bel album intitulé Seconde du groupe Murmure qui sera en concert au théâtre de l'Avant-Scène à Trélazé le 4 avril prochain. Sur l'agenda du Monde des Livres en Anjou, c'est le Printemps des Poètes à Angers. Il a lieu un peu en avance par rapport à la manifestation nationale. Ce soir, à 20h, il y a une rencontre avec les deux poètes invités, Ariane Dreyfus et Fall Marès. Ce sera chez nos amis de la bibliothèque anglophone, rue Boinet, à Angers. Et le Printemps des Poètes national, c'est du 14 au 31 mars avec Ariane, Ascaride et Hippolyte Girardot comme marraine et parrain. Pour les amoureux de poésie, il y a sur le site du Printemps des Poètes une anthologie gratuite au format PDF que vous pouvez télécharger. C'est rare, donc il faut le signaler. Mais vous n'oublierez pas aussi d'aller écouter Kamel Daoud, qui est l'invité du prochain Bouillon. Ce sera la semaine prochaine, le 20 mars, à l'Université catholique d'Angers. Oh là là, je reprends. À l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. Vous n'oublierez pas non plus de vous procurer le nouveau numéro de La Topette, le journal local populaire et indiscipliné qui vient tout juste de sortir. À sa une, la question de l'immobilier à Angers. On trouve aussi un article intitulé « Drogue des villes, drogue des champs », un peu en écho au roman de Clément Camard-Marcier. Et puis, il me faut rappeler les prochains rendez-vous événements à la Maison Julien Gracq. Du 14 au 16 mars, c'est la manifestation Affaires classées avec l'association Noir sur Loire. Du polar, rien que du polar. Le 3 avril, ce sera le vernissage de l'exposition de Jérôme Blin. Et enfin, du 17 avril à 19h, le 17 avril à 19h, c'est une lecture de texte par Claire Baglin à la galerie David d'Angers, dans la magnifique galerie David d'Angers, sous les grandes statues de David d'Angers, en partenariat avec la ville d'Angers et les Lyriades. Au cours de l'émission, vous avez entendu Qual, qui a slamé les liens, et Murmure, qui a joué Teresa. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 26 mars à 17h. J'accueillerai Mohamed Fakiri, qui a écrit « Marocain de naissance et français de cœur ». Je devais recevoir Mohamed au mois de janvier, mais une météo détestable l'avait empêché d'arriver jusqu'à nous. Son livre est plus que passionnant, il raconte un parcours de vie assez impressionnant. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis vous retrouverez Pierre Benoît et toute sa fine équipe aux manettes du magazine Topette. Merci à vous Claire Baglin et Clément Camard-Mercier d'être venus jusque dans les studios. Bonne soirée à vous, bon retour. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.